4. Calvin publie la première édition des Instituts de la religion chrétienne, 1536. Ceux qui sont de la tradition réformée souscrivent aux écrits de John Calvin, qui a publié son livre le plus célèbre, Les Instituts de la religion chrétienne, en 1536. En tant que tel, ces croyants sont appelés calvinistes. Le site web studie.com fournit un résumé utile du calvinisme. Calvin a souligné le rôle que Dieu joue dans le processus de salut. Il a théorisé que les croyants étaient prédestinés au salut. Cela signifie qu'avant même que Dieu ait créé le monde, il a choisi les personnes qui bénéficieraient de son don de salut. Calvin a affirmé une compréhension stricte de la souveraineté de Dieu. Il croyait au fait que Dieu contrôlait complètement les actions de l'humanité et que rien ne se passe à moins que Dieu ne le veuille. Les cinq principes fondamentaux du calvinisme sont souvent appelés points. Dépravation totale, c'est la croyance que tous les êtres humains sont pécheurs et naissent avec une nature de péché inhérente à leur condition humaine. Chaque être humain est complètement pécheur dès sa naissance. Élection inconditionnelle, c'est la croyance que Dieu a prédestiné les individus au salut et que les individus ne peuvent pas choisir Dieu sans que Dieu ne leur permette de le faire. Expiation limitée, c'est la croyance que Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir uniquement pour les péchés de ses saints choisis et non pour les péchés de ceux qui sont incroyants. La grâce irrésistible, c'est la conviction que les élus de Dieu ne peuvent pas résister à la grâce de Dieu dans leur vie. Persévérance des saints, c'est la conviction qu'une fois un individu sauvé, il ne peut jamais perdre son salut parce qu'il est éternellement lié au Christ. 5. L'œuvre d'Arminius, 1603. Ceux qui s'opposent à ces croyances sont souvent appelés arminiens, d'après Jacob Arminius, qui a vécu de 1559 à 1609. Un article de Christianity Today dit: c'est son étude de l'Épître aux Romains en tant que ministre à Amsterdam qui a fermement opposé Jacob Arminius au calvinisme. La foi, croyait-il, était la cause des élections. On peut trouver un résumé utile de ce que les Arminiens pensent sur Aclajar.net. Dieu élit ou choisit tous ceux qui répondent avec foi à son don de salut. L'œuvre expiatoire du Christ sur la croix était pour tous, bien qu'elle ne soit efficace que pour ceux qui croient. Le Saint-Esprit travaille dans la vie des incroyants pour leur permettre de croire. Le salut est alors offert comme un présent qui peut être accepté ou rejeté. Tous ceux qui persistent dans leur foi seront finalement sauvés. Ceux qui ne persistent pas subiront la perte de leur salut. Certains arminiens n'acceptent pas la possibilité d'apostasie chez un vrai croyant. Cher animateur, mon conseil serait de ne pas ouvrir un débat entre ceux qui sont favorables au calvinisme et ceux qui sont favorables à l'arminianisme. 6. Publication de la version King James de la Bible, 1611. Le site web Christian History Institute.org nous donne un résumé utile de la façon dont cela s'est produit. James voulait quelque chose pour remplacer la Bible de Genève, très populaire. Cette version de 1560 était très appréciée par les gens, mais elle avait penchant calviniste distinct, quelque chose que James n'aimait pas. Les puritains, quant à eux, n'aimaient pas la Bible des évêques, une version autorisée de 1568 lue dans les églises mais pas largement acceptée par les gens du commun. L'Angleterre avait besoin d'une version que les églises et les particuliers, ainsi que l'Église d'Angleterre et les puritains, puissent lire avec profit. En 1607, James nomme près de 50 chercheurs et les divise en 6 sociétés. Pendant 2 ans et 9 mois, ils ont travaillé individuellement et en conférence, puis tout le texte a été examiné par un comité de 12 personnes. Bien que les érudits aient utilisé l'hébreu et le grec d'origine, ils ont suivi de près les traductions précédentes. En fait, il peut être inapproprié d'appeler la version King James une traduction. Comme l'explique la préface des traducteurs, il s'agit plus précisément d'une révision des versions antérieures. Par exemple, le travail de William Tyndale, le premier grand traducteur anglais, est évident dans de nombreux passages. Le KJV a été appelé la « version autorisée », bien que, curieusement, il ne reste aucune preuve que James l'ait formellement approuvée. Officiellement, la nouvelle version a été choisie pour être lue dans les églises, remplaçant la Bible des évêques. Mais il a fallu longtemps avant de remplacer la Bible de Genève chez le lecteur individuel. Cher animateur, n'oubliez pas que les étudiants ne sont invités à expliquer que 3 des événements clés de l'histoire de l'Église.